Hello, bienvenue dans le Clo-Clo Club, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une question d'une auditrice en l'occurrence qui m'a demandé de façon extrêmement mignonne comment est-ce que je faisais pour gérer le podcast et la vraie vie. Car oui, le podcast n'est pas mon métier à temps plein, loin de là. Et c'est vrai que je trouvais cette question assez intéressante à l'ère où, notamment sur les réseaux sociaux, encore, vous avez compris, c'est vraiment mon terrain de jeu préféré. On voit popper à droite et à gauche des comparaisons à Hannah Montana. Hannah Montana, vous savez, Miley Cyrus, à l'époque, avait fait une série télé avec sa famille. Et genre, le jour, c'était une ado comme les autres, brune. Et la nuit, bam, elle mettait une perruque et elle devenait Hannah Montana. Vraiment la version super-héros, mais de la pop. C'est un peu ça. Sauf que à force d'entendre les gens dire « bah moi mon mode de vie c'est un peu Hannah Montana », c'est-à-dire que je suis étudiante le jour, influenceuse la nuit, j'ai été un peu agacée en fait, parce que cette image, elle est pas juste, dans le sens où Hannah Montana, dans la série, et vraiment, je reviens aux bases, dans la série en l'occurrence, elle était ado le jour, mais elle voyait ses potes, elle allait à la plage, jamais tu la voyais répéter dans des cours de chant, des cours de danse pour pouvoir monter sur scène de façon parfaite. Elle était tout le temps en train de vivre des aventures d'ado, et encore heureux pour elle, et c'était tout le seul intérêt en fait de cette série. Alors que dans la vraie vie, non fictionnée, ben, quand tu dois gérer deux activités, ta vie sociale, elle en prend un coup. T'as des contraintes de temps, d'agenda. Tu peux pas t'organiser exactement comme tu veux. Tu te retrouves aussi à devoir préparer des choses, que ce soit pour une activité ou pour l'autre. Bref, c'est pas aussi cool qu'être Hannah Montana. Et de l'autre côté, on nous présente des figures connues, des personnes qui ont percé dans leur domaine et qui sont aujourd'hui reconnues et ont un certain statut, comme étant des personnes qui ont soit tout plaqué, soit qui ont mis toute leur chance de leur côté pendant un an en se donnant à fond pour leur activité, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui ils en sont là. Ça marche dans des domaines où il n'y a pas encore grand monde et où c'est plus facile d'émerger, mais si on part du principe qu'on le fait sur des secteurs qu'on ne maîtrise pas trop, j'en sais rien, moi si demain vous voulez monter votre boîte, ça se fait pas en plaquant tout du jour au lendemain. Pareil, pour devenir, j'en sais rien moi, créateur de contenu, artiste, ce que vous voulez. Enfin, c'est pas en claquant des doigts et en disant « je mets toutes les chances de mon côté » que vous allez forcément y arriver. Ça veut pas dire qu'il y a pas de probabilité, mais je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a aussi un enjeu qui devient de plus en plus pesant en grandissant, qui est que vous ne pouvez pas compter sur vos proches si jamais ça marche pas bien. YouTube a commencé à vraiment exploser. Ceux qui ont percé, c'était soit des personnes adolescentes, donc qui étaient encore chez leurs parents, qui étaient au stade des études et voilà, ça a pris. Soit c'était des personnes qui étaient sur des postes et qui ont lâché leur poste une fois que l'activité avait déjà bien pris. Et on oublie un petit peu quand on en parle, quand on nous présente ces grandes figures. Ou alors, et là c'est mes prefs, c'est ce qu'on appelle les Nepo Babies. C'est des gens qui ont déjà des parents qui travaillent dans le milieu dans lequel ils ont envie d'exercer, notamment dans le milieu artistique, on pense à la musique, au cinéma. C'est des gens qui reposent beaucoup sur leurs parents, leur réseau, et du coup c'est beaucoup plus simple d'accéder derrière à une certaine renommée et reconnaissance. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à gérer deux activités à la fois et ne jamais faire de sacrifices et finir en burn-out ? Non, très clairement. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs que je trouve importants à avoir en tête, qui restent donc la sécurité financière, la vie sociale, et arriver à consolider en fait une situation pour pouvoir accéder à une autre. Ça, c'est assez réaliste aussi. Et on est beaucoup, je pense, à être pris par deux activités à la fois et à galérer à trouver un équilibre et à pas trop savoir quel choix faire pendant cette période de transition. Parce que moi, je vois vraiment comme une période de transition. À terme, il faudra choisir une des deux activités. Mais pour beaucoup, en attendant, c'est un job alimentaire ou un job de passion, voilà, qui leur plaît. Plus, à côté, une passion, un rêve, un projet, quelque chose qu'ils ont envie de mener à bien, mais où ça demande un temps de préparation, ça demande des financements, ça va demander peut-être une base de communauté, ça va demander du temps de créativité, enfin plein de choses qui font que ça peut pas se faire comme ça. Je suis dans cette situation. J'ai un travail, je vous l'ai déjà dit dans le podcast, mais qui me passionne, que je trouve vraiment chouette. Et en parallèle, j'ai le podcast qui me tient énormément à cœur. Et j'ai rajouté à tout ça, là, cette année, donc l'atelier d'écriture en ligne, avec d'autres en présentiel qui vont revenir bientôt. Ça, je l'inclus dans le club, parce que ça reste des activités pour moi liées. Mais c'est quand même... voilà, assez dense et assez intense. Et l'année dernière, quand je me sentais pas très bien à cause des chiffres et tout ça, je me suis rendu compte aussi que c'était parce que j'avais énormément de mal à trouver une balance entre mon métier et cette activité qu'est le Clo-Clo Club, et sur lequel j'avais encore du mal à placer une ambition et à savoir ce que j'avais vraiment envie d'en faire. Parce que quand c'est très clair et qu'on sait que c'est ça qu'on veut faire de sa vie, typiquement, c'est normal de mettre toutes les chances de son côté et de se donner à fond. Quand c'est un peu plus ambigu ou qu'il y a quelques peurs aussi qui sont tout à fait légitimes. Encore une fois, je pense à la dimension financière parce que c'est vraiment la peur numéro un qui peut venir, mais à plein d'autres qui peuvent vous être propres. C'est normal d'être un peu paumé. En plus de ça, comme vous gérez deux choses à la fois, ça tire un peu sur la corde, vous pouvez être fatigué, vous pouvez aussi ressentir un peu de lassitude au travail, surtout si c'est un job alimentaire. Mais même un job que vous aimez bien, hein, y a des moments où vous aimeriez faire autre chose que ça et... ça se comprend totalement. Et puis, il y a ce truc d'avoir du mal à avoir une coupure puisque vous prenez votre temps personnel pour développer quelque chose d'autre. Du coup, c'est du travail. Et finalement, vous vous retrouvez à travailler, même si c'est pas de la même forme, en continu. Et comme je suis moi-même, du coup, en galère un petit peu en ce moment dans cet équilibre, je trouvais intéressant de rappeler les petites clés qui permettent déjà de gérer ce que j'appelle cette espèce de double vie. C'est un peu ça, hein. Franchement, vous vous retrouvez avec deux tafs, des enjeux différents, un mode de pensée différent, enfin, c'est assez prenant. Et pour commencer, la première chose pour arriver à gérer ça, si jamais vous avez envie de vous lancer ou que vous êtes en plein dedans, c'est d'arriver à vous dégager du temps. Vous dégager du temps, ça va être sur votre temps personnel, mais ça ne veut pas dire renoncer à votre temps social avec vos amis, avec vos proches. C'est vraiment des ajustements. Ça peut être moins procrastiner devant les écrans, ça peut être de réorganiser un peu vos journées, de pouvoir aussi déléguer des choses peut-être autour de vous, quand c'est faisable en tout cas, ou demander de l'aide aussi à des proches en disant que c'est temporaire mais que là vous aimeriez bien un petit coup de main. Si jamais vous avez les moyens financiers, ça peut être voilà, une aide rémunérée, mais c'est aussi arriver à vous entourer là-dessus. Ça demande... encore une fois, des moyens, que ce soit du temps de cerveau disponible, des moyens financiers, une certaine aisance d'être capable de faire ça. C'est vraiment, vraiment pas simple. Mais dégager du temps, ça peut aussi être sur une pause déj, le matin un peu plus tôt, enfin dans les transports, d'essayer de rentabiliser ce que vous pouvez en tout cas. Pas rentabiliser, c'est pas le... Ah, ça y est, j'en reviens à des termes que j'aime pas trop. C'est plus exploiter un temps pendant lequel vous auriez peut-être... pas fait quelque chose qui sert votre projet sans que ça empiète sur un temps de qualité autre. Je le vois plus comme ça. Évidemment, quand on dégage du temps, ce qui du coup est amené aussi, c'est de poser ses limites. C'est de vous dire que votre projet personnel, vous y avez beau y tenir à cœur et vouloir le développer et en faire quelque chose potentiellement de plus grand. En fait, il y a des moments où vous allez être sous l'eau, fatigué, peut-être que votre taf va vous prendre énormément de temps, peut-être que c'est votre situation familiale, vos proches qui vont vous prendre de l'énergie pendant un temps, et en fait, c'est pas grave. Faut pas le voir comme un frein à l'avancement de votre projet, faut pas que ça vienne vous frustrer pour autant, mais c'est important de poser des limites et de vous rappeler qu'il faut prioriser et que ça prendra le temps que ça prendra. Évidemment on aimerait tous que ce soit rapide, mais en vrai c'est des process assez longs quand on sait que par exemple une entreprise elle est rentable qu'au bout de 3 ans et encore. Bon bah voilà, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est à vous de capitaliser sur vous certes, mais aussi de vous protéger pour pouvoir tenir dans la durée, parce que c'est une course de fond et c'est pas un sprint de pouvoir gérer deux activités comme ça à la fois et de passer de l'une à l'autre, si jamais c'est votre ambition, même juste d'allouer du temps en fait à une autre qui vous fait du bien et que vous voulez prioriser aussi dans votre vie, même si c'est pas un truc que vous avez envie de transformer en boulot par exemple. Dégager du temps, poser des limites, ça veut dire aussi prioriser des choses. Ça va, je pense, à un moment vous obliger à prioriser aussi sur votre travail certaines tâches. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, est-ce que ça vaut le coup de faire des heures sup ce soir alors que je peux le faire demain et garder ce temps-là pour mon projet perso. C'est des choses qui apparaissent petit à petit. Je pense au fur et à mesure que votre deuxième activité prend de la place, prend du temps. Et ça peut vous amener aussi à faire le choix de travailler à mi-temps ou d'avoir le statut, je crois le terme c'est salarié-entrepreneur, un truc comme ça, c'est qu'au sein de votre entreprise, vous pouvez faire la demande. Je ne sais pas si c'est pour toutes, j'avoue, je ne me suis pas renseignée avant d'enregistrer le podcast, mais je sais que ce statut existe qui vous permet d'avoir un temps pour développer votre entreprise, par exemple, alors que vous êtes salarié. D'avoir du coup une protection de l'emploi tout en pouvant travailler sur votre projet. Ça, c'est dans le cas très spécifique des gens qui ont envie de lancer leur boîte. Si vous, c'est un truc, je dis artistique, sportif, ce que vous voulez, c'est évidemment plus compliqué. Et en fonction de vos moyens et de ce que vous pouvez faire, bah ouais, peut-être le mi-temps ou... En tout cas, essayez de trouver des moments et commencer à lever le pied sur votre activité principale. Ça peut être un moyen, du coup, de dégager du temps et de le faire en douceur, de faire cette transition avant de passer à 100% sur l'autre activité. Mais ça, ça veut dire aussi se donner les moyens. Ça veut dire se projeter, avoir une forme de plan de ce que vous avez envie de faire. Et en fait, de mettre une intention. Est-ce que l'activité que vous menez à côté de votre activité principale, c'est encore une fois quelque chose que vous avez envie de faire au quotidien? Est-ce que c'est juste une passion que vous avez envie d'intégrer à votre semaine, mais pas forcément d'en faire autre chose? Est-ce que c'est urgent pour vous, d'un point de vue délai, de lancer ce projet maintenant, pour plein de raisons et de facteurs extérieurs à vous, mais aussi qui vous sont propres? Enfin, je pense que chaque... cas de figure est assez unique là-dessus. Il n'y a jamais de bons moments pour se lancer, mais il y a des mauvais moments. Il y a des moments où juste vous n'avez pas étoffé le truc, vous n'avez pas la vision qui va avec, vous n'avez pas le bagage, vous n'avez pas, encore une fois, les moyens. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et c'est cool de peut-être vous poser là-dessus et de vous dire « Ok, j'ai envie d'en faire quoi ? J'ai envie de l'amener où ?» Là, tout de suite. Et dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire en l'état, à l'heure actuelle, pour y parvenir ? Et ne pas baisser les bras, du coup, quand ça ne va pas aussi vite que prévu. Parce que il y a des projets qui ratent, il y a des choses que vous attendez qui vont pas se passer comme prévu, pour pas vous dire que rien ne va se passer comme prévu. Ça prend du temps, ça dépend pas que de vous, c'est plein de paramètres qui rentrent en jeu, et juste si vous y croyez en votre idée, si cette activité elle vous fait du bien, en fait, allez-y, donnez ce que vous pouvez donner, tout en, encore une fois, vous protégeant aussi et gardant... un rythme de vie. Moi, je cautionne pas des discours qu'on peut entendre des fois sur YouTube ou autre, ou en podcast, de personnes qui disent « Moi, je fais une vidéo par jour et en fait, le boulot, c'est toute ma vie et je travaille même les week-ends. Enfin, je dors pas et j'envoie des messages à 3h du matin à mon équipe. » Non, enfin, faut pas faire ça. Vraiment, vous allez cramer tout le monde. Certes, vous allez peut-être aller plus vite sur certains trucs, mais en fait, à quel prix ? C'est ça aussi. C'est de se dire qu'est-ce que vous êtes capable de mettre et... arrêter de voir ça comme du sacrifice. En fait, je pense qu'il y a moyen d'ajuster et bien sûr qu'il y a toujours ce qu'on peut appeler des formes de sacrifice dans le sens où vous priorisez différemment votre quotidien, mais en fait, vous avez fait ce choix et vous le faites par plaisir et vous le faites parce que vous avez envie que ça marche. Mais aller flinguer sa santé, aller passer sa vie au travail, aller se couper de tout... rapports sociaux, enfin Anna Montana ne le fait pas, vous le voyez bien, elle va discuter avec ses meilleurs potes, donc c'est vraiment un petit point d'alerte aussi je trouve dans le discours ambiant sur ces sujets-là. Avoir une double vie, c'est déjà bien assez compliqué de gérer deux activités comme ça en parallèle, allez pas en plus vous tirer une balle dans le pied quoi. Et si jamais vous avez dépassé la limite et vous êtes fatigué, que ça va plus trop, que vous perdez un peu de sens, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière avec le podcast, j'en ai déjà parlé, c'était pas très rigolo, mais parce que j'avais plein d'autres paramètres qui rentraient en jeu et qui faisaient que la période était difficile à gérer émotionnellement, j'ai fait une pause en fait. Et oui, peut-être que j'ai perdu 2-3 mois sur l'ambition que j'ai pour ce projet, qui est le club. En fait, c'est pas grave, je suis passée en priorité et je suis revenue en plus d'attaque avec de nouveaux concepts, avec l'envie de faire les choses, le plaisir de les faire aussi, et je pense que ça sent, et d'ailleurs le podcast a bénéficié de cet élan, très clairement, donc c'est un conseil aussi que je peux vous partager là, c'est des fois des pauses, ça veut pas dire un temps d'arrêt ou la fin d'un projet. C'est un moyen de mieux revenir. Finalement, c'est juste vous arrêter au palier pour souffler un coup avant de remonter les prochaines marches et pas de vous retrouver à mi-chemin des escaliers, à vous sentir trop mal, à avoir la tête qui tourne. C'est une image comme une autre, mais je pense que vous voyez le truc. Et puis, il faut garder en tête que, encore une fois, les choses mettent du temps à arriver. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant l'interview de la peintresse Sylvie Sélig. C'est une artiste de 82 ans qui s'est fait vraiment découvrir et a une renommée à partir de 80 ans. Ça fait tard, ça fait beaucoup trop tard pour moi. Je me dis que j'ai pas envie d'être découverte à cet âge-là. N'empêche, elle a passé sa vie à créer. Et c'est arrivé quand c'est arrivé. Et là, elle va être exposée au Musée d'art contemporain de Lyon, qui a fait l'acquisition d'une de ses œuvres. Et c'est hyper chouette. Alors après, dans son cas, elle avait un mode de vie qui lui a permis de créer toute sa vie, sans difficulté autre. De ce que je sais, en tout cas. Peut-être que c'était pas si évident. Mais en attendant, elle a quand même pu faire ça toute sa vie. Mais elle ne se fait découvrir qu'à 80 ans, quoi. Et ça fait relativiser. Ça veut pas dire qu'on a envie d'être découvert à la retraite, surtout que, franchement, moi, à 80 ans, je pense que le monde dans lequel on sera ne me permettra pas de raconter des bêtises dans un micro. Mais ça permet de prendre du recul et de se dire que, en fait, il se passe jamais rien jour après jour. Votre projet, si vous y mettez du cœur, si vous faites les choses, il évolue. Il y a des moments où ça va stagner, c'est normal. Il y a des plafonds de verre, il y a des paliers sur lesquels vous allez buter pendant peut-être quelques mois. Et du coup, ça va être d'autant plus fatigant de devoir gérer ça en plus d'un taf. Mais si vous vous accrochez et que vous cherchez des petits moyens de sortir de cette situation, ça va se débloquer au fur et à mesure, et ce sera que pour le mieux. Un autre point aussi, ça c'est si vous avez la chance d'être dans un cadre de travail bienveillant, dans lequel vous êtes épanoui, avec des collègues compréhensifs, et un certain aussi type de travail, je pense. Je pourrais pas me permettre de faire la même chose si j'avais un métier manuel avec des horaires de travail qui sont pas aussi flexibles que ce que j'ai à l'heure actuelle. Oh non, j'avais plus de piles. Je sais plus quand est-ce que ça a arrêté d'enregistrer. Il me semble que j'étais en train de vous parler du travail. Pardon pour cette petite coupure que vous n'aurez pas du coup en audio. Mais moi, ça faisait 5 minutes que je parlais toute seule dans le micro alors que ça n'enregistrait plus. Ouais, si jamais vous êtes dans un cadre en tout cas bienveillant au travail, parlez autour de vous du fait que vous avez un projet annexe en fait, sans forcément rentrer dans les détails de ce que vous avez envie d'en faire, mais juste le partager. Moi, par exemple, j'ai mis le Clo-Clo Club sur mon CV parce que c'est un truc que je fais, que je valorise et que j'aime beaucoup. Et c'est aussi quelque chose dont on m'a parlé tout de suite quand je suis arrivée dans mon travail actuel. Et aujourd'hui, c'est hyper chouette parce que mes collègues, en plus, pour certains et certaines d'écouter les épisodes, j'en ai qui me font un peu ma promo auprès d'interlocuteurs qu'on peut rencontrer, etc. Et c'est hyper valorisant, ça m'ouvre des portes et en fait ça m'aide beaucoup. C'est un soutien hyper précieux et je pense que c'est pas donné à tout le monde, donc autant en profiter si vous êtes dans ce cadre-là. En tout cas, ça vaut le coup. Vous avez rien à perdre et il n'y a aucune honte à avoir aussi à en parler. Ça, c'est un autre sujet en soi, mais quand on mène cette double vie, quand, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de parler d'avoir un amant ou un faux métier et d'être dans une voiture et faire croire qu'on va travailler à l'hôpital tous les matins à sa famille. ça donnerait un épisode tout autre. Mais ouais, quand on a cette espèce de double vie, en fait, on a un projet annexe. Encore une fois, ça dépend de la valeur que vous lui attribuez, ce que vous avez envie d'en faire, ce que vous vous autorisez à vouloir en faire. Mais autant en parler autour de vous et le valoriser. En fait, c'est une passion comme une autre, c'est peut-être un projet comme un autre. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, de « ah, faut pas que j'en parle », etc. C'est un peu la honte et tout. Non, enfin, si, en tout cas, c'est cohérent d'en parler selon vous ou que ça peut vous ouvrir des portes, allez-y. Peut-être que les gens trouveront ça pas fou, peut-être qu'ils trouveront ça génial, peut-être que vous allez découvrir des vrais ambassadeurs et ambassadrices auprès d'eux. Peut-être que certains vont même vouloir rejoindre votre projet, j'en sais rien. Imaginons que vous voulez lancer une asso, peut-être que vous allez recruter comme ça les premiers membres. En parler, que ce soit au travail ou à vos proches, c'est précieux et ça va vous aider aussi à donner du temps et à prioriser, à faire comprendre pourquoi c'est important pour vous et pourquoi ça a de la valeur, ce que vous voulez en faire. Ça va aussi permettre à vos proches d'avoir conscience de ce que ça représente pour vous et donc de pouvoir vous soutenir, peu importe la façon. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager en termes de réflexion sur ce syndrome Hannah Montana. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Comme ça, vous serez notifié chaque semaine du nouvel épisode. Et puis, vous pouvez partager le Clo-Clo Club autour de vous. Peut-être que parmi vos amis, il y en a qui ont très envie de m'écouter parler et qui ne le savent pas encore. Vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify et puis me rejoindre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club sur Instagram, TikTok et Threads. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.